Terroir Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Jean-Roger Villon à ce micro pour Le Monde aujourd'hui, au sommaire de cette édition du mardi 31 octobre 2023. Au Mali, la mission de l'ONU quitte son camp de Kidal, une emprise dont les rebelles Touareg affirment aussitôt avoir pris le contrôle.
C'est un goût amer pour le Mali parce que, à cette allure, nous ne sommes pas à l'abri d'une confrontation entre l'armée malienne et la Boussa.
Reportage à suivre dans la partie magazine. Le président américain Joe Biden supprime les privilèges commerciaux de la Centrafrique, du Gabon, du Niger et de l'Ouganda. Charles III est arrivé au Kenya pour une visite d'État alors que le Royaume-Uni est sous pression pour affronter son passé colonial. Des combats féroces entre l'armée israélienne et le Hamas ont lieu dans la bande de Gaza, où la situation humanitaire désastreuse selon l'ONU ne cesse d'empirer. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la minute éco pour l'instant, le journal. La mission de l'ONU au Mali quitte son camp de Kidal. Dans le nord, cette ville bastion de toutes les rébellions Touareg est un enjeu majeur pour l'État central. La rébellion Touareg a aussitôt annoncé avoir pris le contrôle du camp des casques bleus à Kidal. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Nous avons pris le départ de Kidal ce matin, a affirmé un responsable de la MINUSMA sur place, précisant que l'évacuation se fait par la route. Le convoi de plus de 100 véhicules est en route pour Gao, grande ville du nord à environ 350 km. La rébellion à dominante Touareg a aussitôt revendiqué avoir pris le contrôle d'un camp, tout juste évacué par la mission de l'ONU. Dans un communiqué, le cadre stratégique permanent, une alliance de groupes armés dit avoir pris contrôle des emprises abandonnées par la MINUSMA à Kidal. Un convoi de l'armée malienne se trouve à Anéfis, à environ 110 km au sud, et on ne sait toujours pas quand les FAMA vont faire leur entrée à Kidal, bastion de toutes les rébellions Touareg. La MINUSMA a commencé à quitter le Mali depuis août et devrait achever son retrait au plus tard fin décembre. Les groupes armés qui ont conclu un cessez-le-feu et un accord de paix avec le gouvernement malien en 2014 et 2015 ont repris les hostilités sur fond de départ de la MINUSMA.
Les avocats de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko ont plaidé aujourd'hui à Abuja devant une cour de justice de la CEDEAO pour sa réintégration sur les listes électorales dont dépend sa candidature à la présidentielle de 2024. L'État du Sénégal a demandé pour sa part un renvoi de l'affaire pour une meilleure préparation. Il a récusé deux avocats de M. Sonko pour constitution non conforme. La cour de la CEDEAO a fixé donc au 6 novembre la date d'une nouvelle audience. Le président Joe Biden a décidé de supprimer l'accès de la République centrafricaine, du Gabon, du Niger et de l'Ouganda à la Goa en leur reprochant des atteintes à la démocratie et aux droits humains. Les précisions avec Glidico.
Le président américain a annoncé au Congrès qu'il retire le Centrafrique, le Gabon, le Niger et l'Ouganda de la liste des pays bénéficiaires de l'AGOA ou African Growth and Opportunity Act. Dans sa lettre au Congrès, Joe Biden écrit que le gouvernement centrafricain a commis des violations flagrantes des droits humains. Le président américain reproche également au Niger et au Gabon de ne pas respecter le pluralisme politique ni l'état de droit et accuse l'Ouganda de violation des droits de l'homme. Le texte fondant l'AGOA datant de l'an 2000 permet aux pays africains éligibles d'exporter de nombreux produits vers les États-Unis sans droit de douane. Ce traitement préférentiel est toutefois soumis à une série de conditions dont le pluralisme politique, le respect des droits humains, l'état de droit et la lutte contre la corruption.
Et le Fonds monétaire international a annoncé aujourd'hui être parvenu à un accord avec le gouvernement centrafricain à l'issue de la première visite liée au plan d'aide à destination du pays subsaharien. En mars dernier, débloqué 25 millions de dollars supplémentaires. Il s'agit de la première étape du plan de 191 millions de dollars prévu pour éviter une crise humanitaire dans le pays. Le roi Charles III est en visite d'État au Kenya. Au premier jour de son déplacement, il s'est rendu ce mardi symboliquement sur les lieux de la proclamation de l'indépendance du Kenya, où se sont multipliées les demandes d'excuses sur le passé colonial britannique. Le point avec Eric Manirakiza.
Charles III et la reine Camilla ont visité les jardins de la liberté de la capitale Nairobi, lieu où a été hissé en décembre 1963 le drapeau du Kenya indépendant à la place de l'Union Jack britannique. Accompagné du président William Ruto, le souverain a déposé une gerbe sur la tombe du soldat inconnu. Le palais de Buckingham a affirmé qu'il serait l'occasion d'évoquer les aspects les plus douloureux de l'histoire commune des deux pays. De nombreuses organisations kenyanes ont appelé dimanche le roi au nom du gouvernement britannique à présenter des excuses publiques inconditionnelles et sans équivoque et demander des réparations pour les violences coloniales au Kenya. L'un des épisodes les plus meurtriers est la révolte des Mau Mau, dont la répression par le pouvoir colonial britannique a fait plus de 10 000 morts entre 1952 et 1960. Cette visite de 4 jours à quelques semaines du 60e anniversaire de l'indépendance du Kenya est la première de Charles III en tant que roi dans un pays du Commonwealth.
Le président allemand Frank-Walter Steinmeier a prôné ce mardi un travail commun avec la Tanzanie sur le chapitre sombre de la colonisation de ce pays d'Afrique de l'Est par l'Allemagne, ouvrant la voie à des restitutions de biens spoliés lors d'une conférence de presse à Dar es Salaam avec son homologue tanzanienne Samia Suluhu Hassan. Monsieur Steinmeier a déclaré, selon les propos transmis par la présidence allemande, il est important que nous travaillons sur ce chapitre sombre, que nous le fassions ensemble. La justice tunisienne a durci en appel à 15 mois de prison ferme une condamnation pour apologie du terrorisme prononcée à l'encontre de Rached Ghannouchi, le chef emprisonné du parti Ennahda et principal opposant, le dirigeant de 82 ans, en détention depuis avril dans un autre dossier, avait coupé en mai 2023 d'une peine d'un an de prison et d'une amende d'environ 300 euros, confirmée en appel.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'armée israélienne affirme que des combats féroces au sol avec le Hamas ont eu lieu dans le nord de la bande de Gaza. Selon les Nations Unies, la situation humanitaire qu'elle qualifie de désastreuse ne cesse d'empirer dans le territoire palestinien. Le point avec Jacques Aristide.
Au 25e jour du conflit, les appels à une trêve humanitaire demeurent sans suite, malgré les cris d'alarme des ONG. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a exclu tout cessez-le-feu. L'armée israélienne a dit mener des combats féroces dans la bande de Gaza contre le Hamas, qui de son côté déclare avoir ciblé 2 blindés avec des obus anti-chars. À Jérusalem, le patriarcat orthodoxe a fustigé le bombardement de son centre culturel de Gaza. Quelques 117 camions d'aide humanitaire ont pu entrer dans l'enclave palestinienne à ce jour, mais cette poignée de convois n'est rien comparée aux besoins, a dénoncé Philippe Lazzarini, le chef de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. La situation des hôpitaux inquiète également les ONG, alors que des milliers de civils s'y sont réfugiés. Israël accuse le Hamas de se servir des hôpitaux pour cacher armes ou combattants. Le Hamas dément. Israël indique avoir intercepté un missile tiré de depuis la région de la mer Rouge. Les rebelles Houthis au Yémen, un pays riverain, avouent avoir lancé des drones en direction de l'État hébreu. Et à la frontière israélo-libanaise, où les accrochages sont quotidiens, l'armée israélienne affirme avoir effectué de nouvelles frappes aériennes visant le Hezbollah, allié du Hamas.
Et l'armée israélienne a annoncé que 2 de ses soldats ont été tués dans des combats dans le nord de la bande de Gaza. Les 2 militaires sont tombés dans les combats, a indiqué l'armée dans un communiqué, quelques heures après avoir fait état de combats féroces donc avec le Hamas dans ce secteur. Plus de 20 000 migrants afghans vivant au Pakistan se sont précipités aujourd'hui à la frontière avec l'Afghanistan, selon les autorités pakistanaises, à la veille de la date limite fixée par Islamabad pour qu'ils quittent le pays. Le gouvernement pakistanais a donné jusqu'à mercredi aux sans-papiers vivant sur son sol, essentiellement des Afghans, dont il estime le nombre à 1,7 million, pour en partir d'eux-mêmes, sans quoi ils seront expulsés. Kaboul a dénoncé une mesure cruelle et barbare.
Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Rosine Monizero.
Au Cameroun, le volume de crédit accordé par les mutuelles financières de développement MUFID depuis la création de la première mutuelle en 1992 s'est chiffré à plus de 402 milliards de francs CFA à fin septembre 2023, a indiqué l'Assemblée générale mixte de l'Union des MUFID. Selon Investir au Cameroun, ce projet, soutenu par l'Allemagne, consiste à mettre en place un dispositif de financement agricole au sein des établissements de microfinance de première catégorie. Le Gabon a réclamé mardi devant la justice française le rapatriement d'un masque Fang à l'ouverture d'un procès intenté par un couple l'ayant cédé pour 150 euros à un brocanteur qu'il avait revendu à 4,2 millions d'euros. Lors de la vente, le 26 mars 2022, le masque avait été adjugé pour ce prix hors frais, pratiquement un record pour un objet de ce type, malgré les protestations dans la salle de Gabonais réclamant sa restitution à son pays d'origine. Le Royaume-Uni réunit mercredi et jeudi dirigeants politiques, représentants de la technologie et chercheurs pour discuter de l'essor fulgurant de l'intelligence artificielle lors d'un premier sommet consacré aux craintes suscitées par cette révolution technologique. Le gouvernement britannique veut ouvrir lors de cette réunion le dialogue sur la destruction d'emplois, cyberattaques, voire perte de contrôle par les humains.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Paul Domon enlève la cinquième étape du Tour du Faso.
Oui, le Burkinabé a remporté cet acte 5 du Tour du Faso, couru entre Tinkodogo et Zorgo, 75,400 km, la plus petite distance. Temps mis, 1h33 minutes 27 secondes avec une vitesse moyenne de 48,410 km/h. Paul Domon a devancé l'Ivoirien Abou Sanogo, arrivé deuxième, et le Marocain Achraf Egg Dogmi, troisième. Il décroche ainsi sa troisième victoire d'étape dans cette 34e édition du Tour du Faso et conserve le maillot jaune du leader. La sixième étape se court demain mercredi entre Ouagadougou et Koudougou, 107,6 km. L'arrivée est prévue pour ce dimanche 5 novembre.
L'Arabie Saoudite se lance pour organiser le Mondial 2034.
C'est ce qu'a annoncé la FIFA. L'Arabie Saoudite devrait donc officiellement décrocher fin 2024 le tournoi le plus populaire du monde si tous les critères techniques sont remplis. Le royaume ultra-conservateur a multiplié les investissements dans le football, mais aussi la Formule 1 ou le golf. L'Arabie Saoudite va succéder à un attelage tricontinental inédit pour l'édition 2030, partagé entre l'Espagne, le Portugal et le Maroc, avec trois matchs en Amérique du Sud.
Vinicius Junior lié au Real Madrid jusqu'en 2027.
Le Brésilien de 23 ans a prolongé jusqu'au 30 juillet 2027 son contrat avec le Real Madrid, où il est arrivé en juillet 2018. L'annonce a été faite par le club espagnol, qui le considère comme un de ses joueurs les plus importants. Selon la presse espagnole, cette prolongation de contrat de Vinicius Junior, recruté en 2018 au Flamengo pour 45 millions d'euros, était acquise depuis la saison dernière. Son nouveau contrat serait assorti d'une clause libératoire d'un milliard d'euros. Depuis son arrivée à l'âge de 18 ans, Vinicius Junior a disputé 158 matchs de Liga avec le Real Madrid pour 36 buts, dont 2 depuis le début de la saison.
Ici en NBA, Denver est toujours invaincu.
Le champion en titre a enregistré une quatrième victoire en 4 matchs face à Utah, 110-102, grâce à son deuxième triple-double de la saison, 27 points, 10 rebonds et 11 passes décisives. Nikola Jokic compte désormais 107 triple-doubles en NBA et est à égalité avec LeBron James et Jason Kidd au quatrième rang des joueurs ayant réalisé le plus dans l'histoire de la NBA. Autre équipe toujours invaincue, Dallas a enregistré une troisième victoire en s'imposant 125-110 à Memphis. Stephen Curry a de son côté enregistré son deuxième match à plus de 40 points portant les... ses Warriors à une troisième victoire en 4 matchs à la Nouvelle-Orléans, 130-102. Dans la conférence Est, Boston s'est imposé 126-107 à Washington. Les Bucks de Gianni Antetokounmpo, 33 points, ont écarté Miami à domicile, 122-114. À noter aussi la victoire difficile des Lakers, 106-103, dans leur salle face au Magic d'Orlando.
Page des sports VOA Afrique, signé Yacouba Ouedraogo.
monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Mali, la MINUSMA quitte définitivement la ville de Kidal ce mardi, bien avant la date convenue avec les autorités de la transition. Le cadre stratégique permanent, une alliance de groupes Touareg, dit dans un communiqué avoir aussitôt pris le contrôle des emprises abandonnées par la MINUSMA à Kidal. Reportage de Mohamed Danyoko.
Face aux images et à l'information du départ définitif des derniers convois de la MINUSMA de la ville de Kidal, des Maliens s'insurgent contre ce départ qui s'est fait sans rétrocession du camp à l'armée malienne. Amadou Kouyaté, citoyen.
C'est une flagrante violation quand même des calendriers des forces onusiennes au Mali. Du moment où l'accord a été signé entre l'État malien et les forces onusiennes à travers notre ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop.
L'AMINUSMA, au dire de certains, avait conformément à la résolution 2690 et au chronogramme établi le devoir d'informer de la date exacte de ce départ. Costa Maïga, citoyen.
Il faut au moins quand même communiquer votre date pour mettre le gouvernement à l'aise, pour que le gouvernement puisse se préparer et amener les hommes sur le terrain. Mais lorsque vous décidez unilatéralement de quitter dans un lieu aussi important et stratégique pour le gouvernement, sans les avertir, je considère ça comme une trahison.
Après le communiqué de l'AMINUSMA pour dénoncer la situation sécuritaire dans la ville, il fallait s'attendre à ce départ qui ne sera pas sans conséquences. Omar Konaté, journaliste.
Puisqu'elle a fait un communiqué pour parler de l'insécurité qui la pousse à prendre une telle décision, le Mali n'avait pas d'autre recours. Donc, on ne peut que s'en remettre à cette décision. Mais c'est un goût amer pour le Mali parce que, à cette allure, nous ne sommes pas à l'abri d'une confrontation entre l'armée malienne et les groupes armés.
Il y a 24 heures, la MINUSMA a annoncé l'arrivée à Gao du convoi des casques bleus tchadiens qui a quitté Tessalit et Aguelhok le 21 et 23 octobre dernier. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
VOA Afrique, 24 heures sur 24 à Bamako, au Mali, sur 102 FM.
En RDC, l'ancienne gouverneure de la province de Choapa, Marie-Josée Ifoku, se présente à nouveau à la présidentielle. Elle est connue pour ses déplacements dans le pays avec son balai, qu'elle a notamment remis au président de la CENI lors du dépôt de sa candidature. Nathalie Barge lui a tendu le micro.
Chez nous, dans notre tradition, le balai représente le pouvoir. Et donc ce balai représente beaucoup de choses. Ça représente l'unité, ça représente l'amour, ça représente le nettoyage. Notre organisation politique, il va falloir le nettoyer. Et donc c'est ainsi que nous avons remis ce balai-là à M. Kadima pour que cette fois-ci, qu'il puisse nous aider à avoir des meilleures élections. Je compare par rapport aux trois autres, hein, puisque c'est un parcours, c'est un chemin, et il va falloir que lui aussi puisse être un modèle de responsable. Et d'abord, je voudrais dire l'affichage de listes électorales dans chaque bureau de vote. Et au moment du comptage, il faudra que la publication se fasse aussi par bureau de vote. Donc, il y a beaucoup de choses à dire sur la CENI, et nous voulons qu'elle-même puisse aussi se corriger.
Vous êtes présidente de l'Alliance des élites pour un nouveau Congo et vous vous présentez en indépendante comme la plupart des candidats. Pourquoi ?
Oui, effectivement, je me suis présentée candidate indépendante puisque la proposition que je voudrais faire au peuple congolais est au-delà de mon parti politique. En fait, je le fais comme une citoyenne congolaise qui en a marre de tout ce qui se passe dans notre pays. Il y a un vrai problème de gouvernance, il y a un vrai problème d'un mode de gestion de la chose publique, et le problème est réel. Et donc la proposition que j'emmène au peuple congolais, c'est vraiment un nouveau contrat social audacieux, c'est une proposition inédite, c'est bouleverser ce qu'il y a, ce qui existe. Ce nouveau contrat social va nous permettre de mettre en place une nouvelle république. Ce sera une république qui ne sera plus faite pour un groupe d'individus ou fait sur mesure pour un individu, mais ça sera une constitution qui tient compte de notre histoire, d'où nous venons, où nous sommes rendus aujourd'hui et où nous voulons emmener le Congo.
Comment vous y prenez-vous pour convaincre les électeurs et électrices qui sont encore réticents à l'idée de se prononcer en faveur d'une femme ?
En fait, pour les électrices, ça devrait être la chose qui irait de soi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui m'accompagnent et c'est eux qui me disent que depuis 1960, les hommes ont gouverné. Il n'y a eu aucun réel développement économique, il n'y a pas eu de développement économique et il n'y a eu aucune amélioration des services sociaux de la population congolaise. Et donc, eux aussi comprennent que donner la chance à une femme, c'est une réelle opportunité pour la République démocratique du Congo, qu'on soit en termes de sécurité, en termes d'éducation, parce que qui dit éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Et donc, clairement, si nous voyons ces femmes-là dans la gestion de la chose publique, clairement, il y aura une amélioration. Et donc, nous sommes en train de les conscientiser, nous sommes en train de les sensibiliser, nous sommes en train de leur faire comprendre que la femme a une gestion participative. Elle ne cherche pas à écraser nécessairement l'autre, mais bien au contraire, elle invite les autres à participer à cette gestion-là.
Pour l'entretien intégral de Marie-Josée Ifoku, candidate à la présidentielle en RDC, rendez-vous dans le monde féminin à 19h, 5 temps universel et sur voafrique.com.
Le Sahel, une région à la croisée des chemins. Focus Sahel, votre nouvelle émission sur VOAfrique.
Crise sécuritaire, montée de l'extrémisme et déplacement de populations et influences étrangères, VOAfrique braque ses projecteurs sur la bande sahélo-saharienne pour vous aider à comprendre les enjeux qui sévissent dans cette région et les événements qui rythment la vie de ces pays.
Retrouvez nos équipes à Washington et nos correspondants sur le terrain pour des reportages, des analyses et des interviews.
Pour tout comprendre sur le Sahel, rendez-vous tous les mardis à 18h en temps universel sur VOAfrique, voafrique.com et toutes nos plateformes digitales.
Au Kenya, des développeurs ont conçu une application de téléphonie mobile qui, selon la police, permet de protéger les smartphones contre le vol, de retrouver les téléphones volés et d'empêcher la perte de données. Le reportage depuis Nairobi de Victoria Amunga, le récit est de Claire Morin-Jibou.
Les smartphones qui contiennent des informations sensibles sont devenus un élément essentiel de la vie. Le vol d'un téléphone portable peut perturber la vie de son propriétaire de beaucoup de manières. Au Kenya, les vols de téléphones portables se multiplient. Selon la police, les téléphones portables volés représentent 21% des délits commis dans tout le pays. C'est un défi qu'ont voulu relever les développeurs kényans en créant une application mobile qui, selon eux, peut aider à protéger les smartphones des voleurs. L'application, appelée Xecure, a été conçue avec des options de sécurité qui dépendent de la façon dont le smartphone est utilisé et de l'endroit où il est placé, par exemple dans une poche ou sur une surface. Ibrahim Barry est le directeur des opérations de la société californienne Xecure Technology Solutions.
Let's say you are in an office whereby you don't trust.
Disons que vous êtes dans un bureau où vous n'avez pas confiance dans toutes les personnes qui vous entourent. Vous l'activez et posez le téléphone. Si quelqu'un touche le téléphone, une alarme se déclenche et des photos de la personne qui tient le téléphone sont prises. Rien ne peut éteindre l'alarme à moins que vous ne rentriez le code PIN que vous avez choisi en tant que propriétaire du téléphone.
Au moins 300 utilisateurs ont téléchargé l'application depuis son lancement début octobre, indiquent les responsables de Xecure. Clarisse Kibili se souvient du vol de son téléphone portable.
C'était un pickpocket et sur le moment je n'ai même pas su qu'il avait disparu. Parce qu'il était même attaché à ma poitrine. J'avais justement choisi un système pour que le vol à la tire soit difficile. J'ai donc été choquée lorsque j'ai réalisé que je n'avais plus le téléphone.
Pour l'expert en cybersécurité Evans Mungai, les smartphones volés ou compromis peuvent contenir une grande quantité de données. Ces technologies, comme cette nouvelle application, sont utiles, dit-il, mais elles ont aussi leurs limites.
We need to look for ways of...
Nous devons chercher des moyens d'impliquer les plus grandes sociétés et même les fabricants d'équipements afin qu'ils soient en mesure de suivre efficacement ces appareils à partir d'un numéro de série parce qu'à l'heure actuelle, ils ne sont pas en mesure de le faire et ils sont limités à la connectivité, par exemple.
Pendant ce temps, les autorités kényanes appellent le public à prendre des mesures supplémentaires pour protéger leur téléphone portable.
Écoutez VOA Afrique désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones.
Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique dans tout le continent africain sur la chaîne 555 de Canal.
Alors que le mois d'octobre fait place au mois de novembre, Halloween est suivi par la célébration du jour des morts dans les communautés mexicaines-américaines. Génia Dulo a visité l'une des plus grandes manifestations du jour des morts au cimetière Hollywood Forever de Los Angeles. Le récit avec Rosine Monizero.
Chaque année, le jour des morts mobilise la communauté d'origine mexicaine très nombreuse à Los Angeles. Antonio Arroyo, lycéen, dirige le groupe de danse Jóvenes Alegres qui présente une danse mexicaine traditionnelle de l'état du Michoacán en hommage à son père décédé.
La tradition s'appelle le Corpites, danza de Corpites de San Juan Nuevo. Et tout ce que nous portons vient de là-bas, de San Juan, et ils font tout à la main.
Le premier jour des morts dans le cimetière Hollywood Forever a eu lieu il y a 24 ans. L'événement est passé de 3 hôtels et 200 participants à plus de 100 hôtels et 20 000 visiteurs à Los Angeles, qui compte une importante population mexicaine-américaine. Céline Marès est cofondatrice de l'événement Day of the Dead.
Ici à Los Angeles, la population s'est vraiment intéressée à l'événement parce qu'il n'y avait rien de tel dans le cimetière de Los Angeles.
Malgré son héritage mexicain, elle n'a pas grandi aux États-Unis avec les traditions de sa culture. Elle veut changer cela pour les jeunes générations d'Américains d'origine mexicaine. Jenny Morales, enseignante américaine de première génération, crée cet hôtel depuis 6 ans à la mémoire de membres de sa famille et pour explorer le symbolisme du papillon monarque.
Il existe une légende au Mexique, en particulier dans le Michoacán, un état du Mexique, où la légende veut que le papillon monarque porte les âmes de nos proches décédés. À cette époque, le jour des morts, il y a un endroit dans le Michoacán, c'est comme un sanctuaire, c'est dans les montagnes. Alors, ils viennent toujours en novembre. La légende veut qu'ils reviennent, les âmes de nos proches décédés.
Dans le comté de Los Angeles, les Hispaniques ou Latinos constituent le groupe ethnique le plus important, près de 5 millions de personnes selon le recensement de 2021 et 75% sont d'origine mexicaine.
Aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Dion à ce micro. À la mise en onde, Georges Léonard Saillot. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bangui sur 101.7 FM. Tabari FM, Bamako. Golf FM, Cotonou. Milo FM, 99.5, Cancan, Niger. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.